Donc bonjour, je suis Sophie Dutheillet de la Motte, la conservatrice du département Moyen-Âge et Renaissance au Palais des Beaux-Arts de Lille.
Donc c'est un bel événement aujourd'hui.
Oui, tout à fait, on rouvre nos salles après près de 18 mois de fermeture et 3 ans de travaux entre la conception, le chantier. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous de revoir ces salles avec les œuvres dans une nouvelle présentation, avec une nouvelle médiation, avec un dialogue aussi avec l'art contemporain, du numérique pour accompagner la découverte de nos chefs-d'œuvre. Enfin voilà, beaucoup de nouveautés pour accueillir le public et l'inviter à venir revoir ou découvrir ses collections.
Donc on peut dire que le public sera assez étonné parce qu'à la fois il y a une remise en scène d'une certaine manière hein, de ces objets précieux qui ont été conservés, qui font partie du patrimoine. Alors une partie était peut-être déjà au Palais des Beaux-Arts.
Oui, la plupart des objets sont issus de nos collections, donc étaient déjà présentés avant la fermeture du département pour travaux. Mais nous accueillons à l'occasion de cette réouverture beaucoup de nouvelles œuvres, donc qui sont à la fois des sorties de réserve, donc des œuvres qui ont été repérées en réserve, restaurées, pour pouvoir être présentées au public, et puis aussi des prêts et des dépôts très nombreux, avec beaucoup de partenaires lillois, de la région, mais aussi en France. Donc on peut citer le musée de l'armée, le diocèse de Lille, le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, le service régional d'archéologie et l'État. Enfin voilà, énormément de dépôts et de prêts, y compris d'œuvres contemporaines, pour pouvoir enrichir ce parcours.
Donc il y a de nombreuses salles, hein, et chaque salle est exploitée avec son style pour y intégrer des œuvres d'une certaine manière. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la scénographie ?
Oui, on a travaillé avec une agence de scénographie qui s'appelle Scénographia, Nicolas Groux et Valentina Dodi, donc qui nous ont accompagnés dès le début pour que vraiment on ait la meilleure articulation possible entre les collections et les espaces. Et ils sont aussi accompagnés par un éclairagiste, Alexis Coussement, qui a fait un travail remarquable d'éclairage du département, et également une agence de graphisme, Graphica, qui a fait un superbe travail.
Donc pour le visiteur, il est directement interpellé par une œuvre, on va dire, qui s'exprime dans son cerveau. Il y a une image choc au départ.
Oui, on l'accueille avec une œuvre assez forte, un ensemble de sculptures, dont un monumental calvaire mosant, c'est-à-dire un Christ en croix entouré des deux larrons, qui vient interpeller le visiteur dès son entrée dans le département. Sur un fond bleu assez clair, un fond que les scénographes ont voulu assez lumineux, c'est-à-dire que les œuvres sont difficiles, mais la couleur nous invite à une forme d'émerveillement. Et c'est ce grand mur avec ce calvaire qui vient faire rentrer le public dans sa visite et essayer aussi de provoquer peut-être une émotion, un choc, dès son entrée dans les salles.
Donc dans ces collections, on peut dire que la plupart sont des œuvres qui sont liées à la religion ?
Oui, ce sont essentiellement des collections effectivement d'art sacré, d'art religieux, donc avec une écrasante majorité d'œuvres qui étaient conçues pour des églises ou alors pour des dévotions privées, des œuvres appartenant à des particuliers. Et ça demande aujourd'hui un effort de médiation supplémentaire, parce que c'est vrai que beaucoup de visiteurs n'ont pas les codes pour s'approprier ces collections, pour rentrer dans ce qu'elles nous racontent. Et donc c'est tout l'effort qu'on a essayé de faire aussi, c'est de prendre par la main le visiteur pour l'aider à acquérir un petit peu les codes et les connaissances pour découvrir ses œuvres et aussi pour les aimer, apprendre à les regarder, à en découvrir les détails.
Donc ces œuvres-là, elles sont installées sous cette forme pendant combien de temps ?
Alors c'est une présentation permanente, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un calendrier d'exposition temporaire qui durerait uniquement quelques mois, mais on s'inscrit dans un temps plus long. Donc c'est une présentation qui va durer pendant plusieurs années, avec peut-être des petits réajustements, des nouveaux dépôts, des nouveaux prêts qui vont intervenir ça et là. Mais dans les grandes lignes, c'est une présentation qu'on pourra découvrir pendant, j'espère, de nombreuses années.
Donc c'est un investissement considérable qui va se rentabiliser dans le temps, on peut dire comme ça. Et puis il y a des œuvres donc très contemporaines qui sont, on va dire, pas forcément religieuses là pour le coup, qui sont un peu des visions d'artistes.
Oui, c'est vrai que le Palais des Beaux-Arts souhaite instaurer ce dialogue entre l'art ancien et l'art contemporain. Et dans le département Moyen-Âge et Renaissance, C'est un dialogue qui prend forme à travers une série d'œuvres qui sont empruntées à diverses techniques. Donc on a du cinéma, par exemple, à travers des extraits de grands films du XXe siècle qui racontent la vie du Christ à leur manière avec des images animées, comme les artistes du Moyen-Âge le racontaient à leur manière avec des œuvres plastiques. On a aussi une sculpture éblouissante d'un artiste anglais qui s'appelle John Isaacs, qui a revisité le thème de la Pietà, mais dans une vision plus universelle. Il a recouvert la Pietà de Michel-Ange de la basilique Saint-Pierre, dans une sorte de voile de marbre, pour en retenir un sentiment essentiel de l'empathie. Enfin, c'est ce que pour lui exprime cette œuvre. Et puis d'autres œuvres d'art vidéo ou plastique qui ponctuellement viennent un petit peu titiller le visiteur, créer une expérience, autre chose, un étonnement, et puis aussi créer un dialogue avec les collections anciennes.
Il y a une œuvre qui m'a particulièrement marqué, étonné, hein, c'est cet ensemble de scènes qui sont animées avec des comédiens qui ont joué justement des scènes qui sont dans un contexte particulier.
Oui, donc vous parlez, je pense, des scènes montées par Andy Guérif, qui est un vidéaste qui a réalisé un film très étonnant, très singulier, sur lequel il a travaillé pendant 7 ans. Un film où, en fait, il recrée, pièce par pièce, les éléments d'un très grand polyptyque, un polyptyque très célèbre qui se trouve à Sienne, La Maesta de Duccio. Et à partir de cette œuvre qu'il a inspirée, il a reconstruit les décors de chacune des scènes qui y sont représentées. Et il a fait jouer des acteurs pour animer en fait ces scènes que Duccio a figées pour un temps long dans son œuvre. Et c'est assez magique parce que quand on découvre cette œuvre de loin, on a l'impression que c'est un tableau, qu'elle est inanimée. Et puis plus on s'approche, plus on voit que les personnages en fait prennent vie et qu'on a là une réinterprétation contemporaine, actuelle, d'une œuvre ancienne autour de la Passion du Christ.
C'est vrai que les grands écrans modernes, hein, les écrans plats, permettent de donner l'illusion du tableau maintenant et de les animer en plus.
Oui, et puis c'est un jeu qu'on fait à plusieurs reprises dans le département. Il y a cette œuvre d'Andy Guérif, et puis il y a aussi une autre œuvre sur un grand écran qui est présentée au dos de deux de nos chefs-d'œuvre, La chute des damnés et l'ascension des élus de Dirk Boots. Donc c'est une vision de l'enfer et du paradis qui constitue deux fleurons de la collection lilloise. Et on a placé au dos de ces œuvres, comme si c'était un petit peu un revers contemporain, une autre vision de l'enfer et du paradis, cette fois-ci par un vidéaste qui s'appelle Marco Brambilla, également sur un très grand écran comme ça, qui permet d'avoir une expérience de visite assez forte.
La ville de Lille est assez soucieuse de l'écologie, paraît-il. Hein. Donc ici, en termes d'éclairage, vous avez beaucoup travaillé aussi pour réduire les frais.
Oui, et puis on a surtout eu un souci de développement durable en reconditionnant des cadreurs anciens, c'est-à-dire qu'on n'a pas jeté le matériel pour le remplacer, mais on a au maximum réutilisé, réadapté, et donc remplacé par des LED, des lumières qui étaient moins écologiques. Et on a vraiment travaillé en ce sens avec un souci du matériau biosourcé, du réemploi et de la sobriété énergétique.
Donc ces 3 ans de travaux, j'imagine, hein, étaient déjà dans une planification. Hein. Il y avait le projet qui s'est mis en place pendant ces 3 ans. Au départ, ce que vous aviez imaginé, tout s'est réalisé comme vous l'avez souhaité ?
Alors dans un projet, tout ne se réalise pas forcément comme on le souhaite, mais dans l'ensemble, je dois dire qu'on peut quand même être... je crois que les objectifs ont été atteints, c'est-à-dire vraiment une remise en lumière de ces collections qui sont merveilleuses. Un très gros effort de médiation, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que l'un des points forts du réaménagement de tout le Palais des Beaux-Arts, c'est de vraiment faire davantage attention au public, de lui apporter davantage d'explications, de l'accompagner. Et donc ça, c'est quelque chose qui était particulièrement important pour les collections du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui sont des collections pas faciles pour le grand public. Et donc aujourd'hui, on est tous très satisfaits du résultat, et y compris de la collaboration avec l'agence Scénographia qui a permis de respecter les espaces du musée. On se trouve dans des espaces très beaux, des caves voûtées que vos auditeurs viendront peut-être découvrir. Mais en tout cas, c'est des espaces qui ont aussi un charme très particulier et qui a été vraiment respecté par les scénographes. Et je crois que le résultat, du coup, est à la hauteur de ce qu'on espérait.
On parlait tout à l'heure donc des œuvres contemporaines hein, qui sont réalisées par des créatifs, des créateurs. Hein. Est-ce que vous avez une politique en termes de résidence ou de commande spécifique pour les futures années? Pourquoi pas y intégrer de nouvelles œuvres?
Alors, pas spécifiquement le Palais des Beaux-Arts, mais en revanche, la ville de Lille, oui, soutient beaucoup l'art contemporain. Mais au Palais des Beaux-Arts, ce sont plutôt des prêts et des collaborations ponctuelles avec des artistes, comme la collaboration avec le groupe R, par exemple, qui avait donné lieu à un Open Museum il y a quelques années. Et le groupe avait composé une musique sur mesure pour l'une des galeries du département. Et une musique que le groupe R nous a autorisé à rediffuser pour cette réouverture, ce dont on est très heureux.
Voilà, un beau projet qui se conclut par une ouverture au grand public.
Voilà, donc vous êtes tous bienvenus pour découvrir ou redécouvrir le département Moyen-Âge Renaissance au Palais des Beaux-Arts de Lille.